le principe de surcompensation, on en avait parlé, tu sais, dans un podcast, c'est vraiment cet équilibre entre un stress et ma capacité à pouvoir faire face à ce stress-là et à récupérer, à être régénéré par rapport à ce stress-là.
Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up, le podcast de Intuitive Training, l'émission qui aborde tous les sujets liés à l'entraînement, la nutrition et la récupération. Je suis Eleanor, toujours athlétique intuition sur les réseaux, et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux acolytes et associés préférés, Thomas Tapti, ou Wild Soul Trainer sur Instagram, et Nicolas Florisson, plus connu sous le nom de Tarzan from the Town. On est absolument ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode, on espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ou à nous soumettre des idées de sujets sur Instagram, @intuitivetraining.fr. On sera vraiment ravis de pouvoir les traiter dans les prochaines semaines du podcast. Sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation du jour. Bonne écoute! Salut Top, salut Nico!
Salut!
Salut les gars, ça va ?
On est sur la deuxième prise. On a commencé le podcast et je leur ai dit stop! On n'est pas assez clair. C'est de ma faute, mes questions n'étaient pas assez précises, donc on recommence. Les pauvres, ils en ont marre de moi.
Non, pas du tout.
Si.
On est au taquet, là. On est au taquet. On va t'expliquer ce que c'est que la récupération, mon petit bonhomme.
Oui, parce que du coup, on va parler aujourd'hui récupération. On vous a posé... c'est un des sujets qui revient le plus quand on vous pose la question de quel sujet vous voulez qu'on traite sur nos épisodes. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des programmes, quel meilleur programme, quelle meilleure méthode d'entraînement pour progresser le mieux possible, le plus rapidement possible. Mais on parle assez rarement finalement de la récupération et à quel point une bonne récupération peut être un facteur de progression dans notre pratique, mais aussi à quel point, à contrario, une mauvaise récupération peut nous pénaliser, peut nous freiner dans l'atteinte de nos objectifs. Donc faisons un petit point et essayons d'éclaircir un maximum cette partie qui fait partie intégrante de notre vie de sportive et qui est notre vie sportive et qui est souvent minimisée. Commençons, j'ai envie de dire, par un petit peu faire le point sur les facteurs qui rentrent en compte et dans le processus de récupération. Quels sont les leviers qui influent sur ça?
Alors, tu as différents facteurs qui peuvent optimiser ta récup. Tu as tout d'abord le lifestyle de la personne, comment elle va vivre, le stress extérieur, son hygiène de vie en règle générale. Ensuite, tu vas voir la nutrition.
Son métier,
évidemment.
Donc, stress, métier.
Exactement, ouais.
Vie de famille,
tout ça, c'est des facteurs un peu extérieurs hors entraînement qui vont jouer là-dessus. Tu vas voir également la nutrition. Tu te doutes bien que la manière dont tu vas te nourrir va avoir une importance sur la récupération musculaire, sur la qualité de ton corps, tout simplement. Donc, ça, c'est deux facteurs très importants. Le troisième va être sur la récupération active ou passive, d'accord ? Mais j'insiste là-dessus sur ces trois gros piliers, lifestyle, nutrition et récupération active, parce que c'est des choses que tout le monde est capable de faire. Je veux dire, sa nutrition, c'est des choses assez simples qu'on peut contrôler nous-mêmes. Le lifestyle, bon, ça dépend du style de vie de chacun, mais on a vite tendance à se focaliser sur... l'exercice de malade pour récupérer, tu vois, alors que avoir un bon lifestyle, un bon sommeil, une bonne hydratation et bien manger peuvent suffire déjà à optimiser sa récupération de manière importante.
C'est rigolo parce que toi, en tant que professionnel du sport, le premier pilier qui te vient, c'est potentiellement récupération active, alors que très honnêtement, enfin, pour moi, le premier pilier de la récupération, c'est juste ne pas s'entraîner. Je pense pas forcément à la récupération active. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert via les programmations Intuitive Training. Mais jusqu'à présent, j'avais pas ce point-là. Enfin, ça rentrait pas dans mes routines forcément de sportive.
De sportive,
ouais. C'est-à-dire que je pouvais avoir des temps de... finalement des espèces de training dédiés à la récupération. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez nouveau et on va faire un petit peu un point là-dessus. Mais sinon, évidemment, donc, comme tu le dis, le lifestyle dedans, on n'a pas parlé, mais il y a le sommeil qui rentre dans le lifestyle. Ouais, ouais. Et tous les éléments, tous les facteurs externes liés à notre vie au quotidien et la nutrition. Ok. Est-ce que vous voulez rentrer plus précisément dans chacun de ces points ?
Bah déjà, le sommeil, ce qu'on peut dire de manière assez simple, c'est que pour moi, je le mettrais en principal, même avant la nutrition.
Ok.
Okay. Alors après, voilà, il n'y a pas de concours de qu'est-ce qui est mieux que l'autre, mais je le mettrais en principal parce que souvent, je pense que pour beaucoup de personnes, la charge mentale de gérer son sommeil, finalement, peut être moins élevée que la charge mentale de gérer son alimentation. Mmh. Je vais expliquer pourquoi. Ton alimentation, il y a plusieurs moments dans la journée où tu dois la gérer. Ton sommeil, grosso modo, il y a qu'un ou deux moments dans la journée où tu dois la gérer. C'est-à-dire au moment où je me couche et au moment où je me lève.
Puis après, c'est moins complexe.
Puis ça reste quand même moins complexe. Okay.
Bien sûr.
Et pour le coup, tu peux être actif sur ce système qui est de la récup passive. C'est-à-dire que le sommeil, c'est une forme de récup passive. Mais toi, tu peux être actif sur l'optimisation de ton sommeil. Donc pour l'optimisation de ton sommeil, il y a deux, trois petites choses qui sont assez simples, qui fonctionnent assez bien. Alors après, même si c'est simple, la mise en place peut être compliquée, bien sûr. Mm-hmm. Parce que souvent, on se heurte aussi au niveau des athlètes à des gens qui ont construit des mauvaises habitudes de sommeil depuis des années. Et déconstruire ça n'est pas forcément simple. Mais déjà, la première chose qui fonctionne, au-delà du nombre d'heures, parce qu'il faut savoir que le nombre d'heures de sommeil, ça, c'est très, très individuel.
Ouais, c'est aléatoire.
C'est très aléatoire. On a tous un mapping vraiment différent.
Ok, on n'a pas forcément besoin de entre 7 voilà, et 8 heures de sommeil.
C'est un principe général, ouais. Moyen dont on parle, mais ta qualité de sommeil est largement plus importante par rapport à la quantité de sommeil. Donc les choses que tu peux faire au niveau déjà, ne serait-ce que de la qualité de ton sommeil, c'est le fait de se coucher et de se lever à des heures fixes.
Ok.
Okay. Donc ça, c'est pas forcément simple parce qu'on est dans une vie où souvent, malheureusement, et après, il faut aussi être capable de... on va dire adapter ce que je suis en train de dire à votre vie et à votre envie et tout en gardant quand même du plaisir, mais lorsque tu as des trop grands écarts en termes ne serait-ce déjà de lever entre le moment où tu te lèves la semaine et le moment où tu te lèves le week-end, mm-hmm. Et ben en fait ça perturbe nettement ton sommeil.
Donc les grasses mat, c'est pas forcément une bonne idée.
Même pas une très bonne idée.
Okay.
Vaut mieux à la limite dans la journée rajouter une sieste, ok, à un moment donné, donc qui ne va pas dépasser 20 à 30 minutes idéalement. En fait, on va pas rentrer dans le sommeil parce qu'après on pourrait faire même un podcast sur le sommeil, mais idéalement faire vraiment quelque chose de court au niveau de votre sieste, plutôt que de se dire bon bah là j'ai besoin de récupérer, donc je vais redormir jusqu'à 10h, 12h. Pourquoi ? Parce que quand tu vas vouloir repartir sur un système normal le lundi, et d'ailleurs le lundi va te paraître horrible, parce que il va falloir que tu te lèves 2 ou 3 heures plus tôt que ce que tu te lèves le week-end. Donc déjà, ça crée un déséquilibre, et à chaque fois, finalement, en fait, toi, tu essaies d'équilibrer, on va dire, ton sommeil pendant la semaine, et ça se déséquilibre le week-end.
Okay.
Donc, j'ai parlé du fait de garder des heures de lever constantes, tout simplement parce que je pense que c'est plus simple de garder des heures de lever constantes que des heures de coucher constantes. Pourquoi ? Parce que des fois tu fais des sorties, tu fais des soirées. Donc si jamais au moment donné où tu as fait une sortie, une soirée, et tu te retrouves avec un déficit de sommeil, lève-toi quand même, moi c'est mon conseil, après il faut aussi tester, tout le monde est différent, mais lève-toi quand même plus ou moins à une heure près à l'heure où tu es censé te lever plutôt en semaine. Et si tu as besoin de récupérer, quitte à faire une sieste dans la journée.
Ok.
D'accord.
Les petites siestes, tu as des recos ? Parce que moi, je suis très... Alors, je déteste les siestes, c'est bizarre. Je suis très power nap. C'est-à-dire que moi, c'est 10 minutes, 15
tout
minutes,
simplement parce
20
que...
minutes max, ouais. Mais pas plus.
Alors, c'est pas toi. C'est qu'à un moment donné, quand tu passes un certain temps, en fait, tu rentres au niveau de ton sommeil, dans un sommeil un peu plus profond.
Okay.
Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'en fait, il ne faut pas arriver au point où tu entames un cycle de sommeil.
Okay.
Donc, souvent, les cycles de sommeil, c'est 90 minutes à peu près. Donc, idéalement, faut, on va dire, faire ce qu'on appelle une power nap, effectivement, 10-15 minutes, pas plus de 20 minutes, parce que là, tu vas rentrer dans un sommeil qui va être réparateur au niveau psychique, alors que ton sommeil au départ est plutôt réparateur au niveau, on va dire, physique. D'accord ? Donc, du coup, quand tu commences à rentrer à ce moment-là et que le système de rêve se met en place, etc., etc., au moment où tu te lèves, eh ben, on va dire, si tu mets 45 minutes, eh ben, tu es beaucoup plus fatigué finalement que si tu avais soit fini un cycle complet, on va dire d'une heure et demie, soit pas entamé un cycle qui te rentre en sommeil profond, par exemple.
Okay.
Donc, c'est pour ça que ça fonctionne assez bien. Par contre, c'est difficile parce que souvent, te dire, 15 minutes, c'est vraiment court et tout. Et le problème aussi, c'est que 15 minutes, si tu es une personne qui a du mal on va dire, soit à lâcher prise, soit finalement à être en train de t'endormir. Parce que souvent, il y a des gens, ils ont 15 minutes, c'est même pas le temps qu'ils ont besoin pour commencer à s'endormir. Donc, pour eux, ça marchera pas parce qu'ils vont se mettre 15 minutes et en réalité, ils vont être encore conscients de ce qui se passe autour d'eux. Et du coup, ils auront, leur power nap ne sera pas efficiente. Donc après, il y a des petites astuces comme la cohérence cardiaque, le travail de respiration pour essayer vraiment de relâcher et d'essayer d'aller plus rapidement dans ce relâchement. Et en fait, il faut vraiment avoir ce relâchement musculaire. Ce qu'on cherche, c'est le relâchement du corps, le relâchement au niveau du tonus musculaire et le fait que tu commences un petit peu à divaguer. Et une power nap est efficace au moment donné où, quand tu te réveilles, tu as l'impression de pas t'être endormi, tu vois. Ça fait genre hop, hop, ok, je suis reparti.
Ok, alors j'ai une question, est-ce qu'il faut véritablement s'endormir? Genre,
alors,
que après, la plupart d'une power nap sur deux, je dors pas, moi.
Ouais,
mais
alors,
je suis
dans
un phénomène de détente et...
Psychiquement, t'es conscient de ce qui se passe autour, oui. Mais ton corps est relaxé.
Oui.
C'est ça que je te dis.
Et ça marche, enfin...
Ouais, ça marche, bien sûr, ça marche. Après, il faut savoir que selon les personnes, les gens sont plus ou moins toujours conscients, okay. C'est notamment les gens qui ont du mal à rentrer en sommeil profond, sont toujours plus ou moins conscients de ce qui se passe, c'est pour ça qu'un bruit peut t'éveiller, etc. Mmh. Après, en général, quand t'es en sommeil profond, si t'es vraiment en sommeil profond, t'es complètement inconscient, t'es dans un univers qui fait que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ça a que très peu d'impact sur toi. Et ça, c'est aussi représentatif des gens qui ont des bons sommeils réparateurs. Mmh. Des gens qui sont capables soit rapidement d'entrer en sommeil profond, soit d'avoir un sommeil tellement profond qu'ils sont pas conscients de ce qui peut se passer autre chose et un bruit de parquet ou un bruit autre ne va pas les réveiller.
Okay.
Mais effectivement, il faut que tu aies la pression d'une sensation un peu de lâcher prise dans ta power nap.
Okay.
Pas forcément de ne pas être conscient de ce qui se passe. Mais voilà, et après je te dis, c'est à tester.
Ok. Ouais, super, super clair. Donc là, on a parlé du sommeil pour toi qui rentre en numéro 1. Si on ne peut pas vraiment les classer, quel autre facteur?
Hydratation.
Hydratation, avant la nutrition?
Ouais. En fait, moi, pourquoi je choisis?
On nous a demandé un podcast sur l'hydratation, d'ailleurs, donc on ne va peut-être pas rentrer full dans les détails, on en fera un dédié, mais donne-nous quelques éléments.
Moi, je choisis, en fait, mon classement, pas en fonction de qu'est-ce qui est meilleur, mais en fonction de qu'est-ce qui me demande le moins de charge mentale. Et peut-être même l'hydratation, on pourrait peut-être le même avant le sommeil, sauf que pourquoi j'ai choisi le sommeil quand même avant l'hydratation? C'est que l'impact quand même du sommeil, même si la charge mentale, elle est légèrement supérieure à l'hydratation, et ben en fait on a un impact positif qui est un peu plus important.
C'est
comme ça que ce classement il se fait en fonction de ok, ma charge mentale pour pouvoir essayer d'améliorer cet élément là est-ce qu'elle est très élevée et proportionnellement est-ce que pour peu on va dire d'investissement j'ai un grand retour. Donc l'idée c'est ça. Donc l'hydratation, après il y a plusieurs recommandations, mais c'est un élément qui, et moi le premier je suis vraiment nul là-dedans, qui est assez négligé et qui pourtant est un facteur de récupération quand même assez important, okay, notamment lorsqu'on s'entraîne. Donc alors des petits leviers, tout simplement on va essayer de faire en sorte d'avoir toujours de l'eau à portée de main. C'est bête, mais il y a plein de personnes qui n'ont jamais une bouteille d'eau ou une gourde ou autre chose à portée de main. Et je vais pas te mentir, si tu l'as pas à portée de main, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller boire. Parce que c'est rare que quand ta journée elle a commencé et que t'es en plein dedans, que tu dises « Oh, il faut que je m'arrête pour aller boire ». Tu vois ce que je veux dire?
Par contre, si t'as ta l'hydratation t'aide à récupérer?
Parce que t'es composé à combien de pourcents d'eau?
Ok.
80.
On va dire 70% okay. d'eau. Donc du coup, forcément, les flux. Ok. Donc à un moment donné, l'hydratation, c'est des sels, des minéraux, des électrolytes. Et donc du coup, toutes ces choses-là vont participer à la contraction, vont participer au fonctionnement du corps humain, etc. Et donc du coup, lorsque tu as une fuite de ça via le fait que tu transpires, via le fait que tu te dépenses, et ben du coup, il va falloir réhydrater tes tissus. Donc à un moment donné, c'est très important en fait. Les flux qui sortent doivent être compensés.
J'imagine, hydratation, c'est à l'eau.
Oui,
bien évidemment.
J'allais en parler justement. en parler, c'est vraiment.
Pas de coca, pas d'alcool, même si dans le coca on met 80% d'eau.
Thé,
voilà, faut éviter aussi. Alors c'est pas qu'il faut éviter, ça peut être intéressant d'avoir du thé, ça peut être intéressant d'avoir d'autres boissons, mais principalement on va essayer de faire en sorte que si jamais le fait de boire du thé ou d'autres boissons est un facteur qui va favoriser l'hydratation, pourquoi pas? Par contre, il faut savoir qu'il y a certains types de thé ou certains même des boissons comme le café ou autre qui peuvent déshydrater. Donc malgré le fait en fait que tu boives, tu crées de la déshydratation.
Tellement c'est diurétique par exemple?
Exactement, par rapport à ces principes-là et autres. Donc,
franchement, je gère pas du tout. Je suis un vrai chameau et je bois que du thé.
Oh, non, mais moi c'est pareil. Moi, c'est pareil. Je te dis, moi, le premier. Par contre, l'idée, c'est aussi de donner des choses aux gens pour améliorer. Franchement, un truc tout bête, c'est d'avoir.
C'est gourde.
sa gourde, une bouteille d'eau, ce que tu veux à portée de main, volontairement de la poser en évidence pour que ça te donne envie de boire. Et tu verras qu'en fait, au départ, notamment des gens comme toi et moi qui ont tendance à pas trop boire, après toi, si tu bois beaucoup de thé, t'as quand même une hydratation.
Ouais, mais je passe ma vie aux toilettes, gars.
Ouais, mais bon, non, mais bon, je veux dire, c'est déjà mieux que rien, ok, c'est déjà mieux que rien, t'es quand même hydraté. De toute façon, à partir du moment où tu bois, je veux dire, au niveau de ton système, okay, il va forcément y avoir un système de chasse, au moins. Tu évacues quand même le fait d'aller faire ton petit pipi avec ton petit thé et tout.
Je fais ce podcast avec une grosse tasse de thé.
Avec une grosse tasse de thé Starbucks, pas publicité, mais au moins tu évacues, tu draines, tu vois. En fait, l'idée, okay, c'est ça, c'est évacuer, drainer.
Très clair. Ok, après hydratation, du coup, nutrition ?
Nutrition, bien sûr, nutrition. Alors, nutrition, pareil, on va pas non plus rentrer trop dans les détails là-dedans, mais l'idée de se donner quelques petits conseils. Des choses qui marchent assez bien, même si chez certains athlètes, là je vais te donner un conseil, mais chez certains athlètes, je le ferai pas et je le ferai différemment parce que tout dépend du contexte. Mais souvent, le fait de, lors de tes jours de repos ou les jours où tu t'entraînes pas, de manger un petit peu plus de glucides, ok, ça peut fonctionner. Et ça peut, on va dire, recharger un petit peu, si tu veux, grosso modo, la machine, sans rentrer dans trop les détails. Et ça peut t'aider à mieux récupérer, notamment pour les entraînements qui vont suivre.
Et donc plutôt sur tes jours de repos et pas sur tes jours de travail.
Alors tu vois, ça semble un peu contre-productif. Tu dis mais pourquoi et tout. Mais parce que justement sur tes jours de repos, tu crées un apport positif par rapport au déficit que tu as créé le fait de t'entraîner la veille. Tu vois ce que je veux dire? Donc même si tu as eu ton apport aussi au niveau des glucides, mais ça peut être intéressant. Après je te dis, en fonction de ton objectif, je vais pouvoir l'inverser. C'est-à-dire que certains objectifs, notamment de perte de poids ou de sèche ou autre, et ben ça peut m'arriver de dire à la personne, ah non, 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 là à ce moment-là, on garde des glucides hauts autour de l'entraînement.
Pour avoir du jus sur le training.
Pour avoir du jus sur le training et pour quand même avoir du déficit lors des jours de repos. Par contre, si ton objectif c'est uniquement la performance et que tu n'as pas d'objectif esthétique ou d'objectif même de perte de poids ou autre, et ben ça peut être judicieux de rajouter effectivement une portion de glucides les jours où tu es en récup total, on va dire.
Ok. Dans le lifestyle.
Ah, dans le lifestyle, c'est peut-être le plus dur. C'est très large, c'est très dur parce que tu vois, autant souvent on parle de stress comme étant quelque chose de physique. Donc par exemple, quand tu t'entraînes, tu as un stress physique et on a tendance à négliger. Moi, je partirais du principe, pour pas trop m'emballer là-dedans, que ce qui a nettement changé chez la plupart des gens, et notamment le principe de sédentarisation et le principe de, du travail qui est de plus en plus demandeur psychiquement par rapport à ce que faisaient nos parents. Et je peux dire, on ne travaille pas de la même façon. Peut-être physiquement, c'est plus dur pour eux, mais nous, psychiquement, on se met la pression. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans un système aussi tellement de services que
il n'y a pas de déconnexion,
tu te focalises sur une tâche et ta tâche sur laquelle tu te focalises, t'es tellement en boucle dedans, notamment dans les différentes tâches
encore
que tu fais.
Encore plus aujourd'hui avec tout le télétravail.
Exactement. Et donc du coup, cette fatigue psychique, en fait, a un impact, ou ce stress psychique a un impact énorme sur ton manque de récupération et ta capacité à pas pouvoir peut-être gérer certains stress comme l'entraînement ou autre. Donc ça, il faut le travailler. Je pense que des choses assez simples pour travailler à ça, c'est tout simplement de la méditation, du travail de respiration, de la cohérence cardiaque, de la sophrologie, apprendre à lâcher prise. C'est des choses, voilà, on peut rentrer un peu plus dans les détails dedans, mais ça, c'est important. Et effectivement, c'est là où c'est assez rigolo ce que je vais dire, c'est-à-dire que des fois, un entraînement avec une faible intensité, okay, peut participer de manière positive au fait de déstresser psychiquement parlant, parce que tu lâches prise et justement tu par contre il faut que l'intention, si ton but c'est de récupérer, ok, soit une intensité très modérée par exemple.
C'est intéressant, on va faire le palier du coup, ça nous permet de faire la transition vers la récupération active, parce que c'est ça, c'est ce point là que tu commences à aborder. Parce que souvent, donc dans l'imaginaire sportif, quand tu débutes, la récupération consiste juste à ne pas avoir de jours d'entraînement. Et ce n'est pas forcément, le plus opportun. Enfin, c'est peut-être nécessaire aussi d'avoir des moments où juste on ne met pas les pieds dans une salle. Mais peut-être que à d'autres moments, mettre en place d'autres procédés d'entraînement dans une optique de récupération peut être intéressant. Donc je vous laisse prendre la parole dessus. Merci pour votre écoute. Le sujet de la récupération étant assez dense, on a préféré diviser cet épisode, histoire juste de rendre l'information un tout petit peu plus digeste sur une conversation qui a duré presque 50 minutes. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la seconde partie. En attendant,
dormez bien, mangez bien, hydratez-vous bien, dégommez-nous tous vos entraînements et allez nous suivre sur notre page Instagram @intuitivetraining.fr. Allez, à très vite.